Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour parler des cosmétiques ce matin avec des sujets qui nous préoccupent aussi à l'approche de l'été. Je parlais notamment du choix de vos produits de crème solaire, des produits qu'on utilise au quotidien pour certains, des rouges à lèvres aux mousses à raser, des déodorants au bain douche. On a le sentiment de gestes anodins et même de réflexes, mais que se cache-t-il derrière justement? Est-ce que c'est tout à fait sain pour notre santé à la fois, mais aussi pour l'environnement? Je vous recommande, et on va en parler jusqu'à 11h avec la rédactrice en chef, le magazine UFC Que Choisir, un guide cosmétique, guide pratique à trouver en kiosque pour en savoir plus, démêler les produits sains ou toxiques, faire le tri, mais ça veut dire quoi sain, ça veut dire quoi toxique pour les femmes, les hommes et les enfants? Énormément de questions à partager jusqu'à 11h comme utilisateur, n'hésitez pas ma chère Julie, parce que là pour le coup il y a des choses à dire. Hein.
39-21, c'est le standard d'Europe 1, on attend vos appels, 50 centimes la minute.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec Pascal Barlet, rédactrice en chef de ce guide cosmétique. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Un guide qui fait le tri sur 171 références décryptées, mais vous en avez beaucoup plus en magasin et c'est ça qui est très éclairant pour ceux qui nous écoutent. Vous savez que c'est un sujet de préoccupation. En a témoigné le succès d'une application que vous avez lancée l'an passé, Quelle Cosmétique. C'est une application qu'on télécharge sur ses smartphones et qui permettait de lire, d'abord de scanner les produits, puis ensuite d'en savoir davantage sur la composition, leur vertu ou leur toxicité.
Oui, alors effectivement, peut-être pour vos auditeurs, on peut rappeler que Choisir, c'est un magazine, effectivement, hors série pratique dont je m'occupe, mais c'est aussi la première association de défense des consommateurs en France.
Oui.
Donc, nous avons lancé, en fait, il y a un an, une application gratuite qui s'appelle Quelle Cosmétique, qui a remporté un énorme succès. 171 000 références produits, c'est énorme sur cette base, totalement interactive, puisque, en fait, ce sont les consommateurs eux-mêmes qui prennent leurs produits, en fait, dans leur salle de bain, les scannent via l'application et ensuite nous avons référencé les composants et on peut leur dire en fait selon les composants qui sont dans le produit si il y a des perturbateurs endocriniens, des allergènes, des substances indésirables et donc si en gros ils doivent les mettre à la poubelle ou les conserver.
Alors c'est ça qui est difficile aussi à comprendre, c'est à partir de quel moment et de quelle dose un produit est sain ou un produit est dit toxique, parce que ça vaut pour tous les produits d'hygiène, pour tous les cosmétiques, du dentifrice à la crème de jour.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on s'est concentré dans le guide sur un certain nombre de produits, les produits d'usage, on va dire, quotidien.
Ouais, des shampoings, crèmes de corps.
Effectivement, les crèmes de jour, les crèmes pour le corps. Et puis, on a compartimenté, en fait, comme dans notre application, par type de profil. Parce qu'en fait, ça change aussi, j'ai envie de dire, la nocivité est différente selon les profils. Par exemple, pour une femme enceinte, elle sera beaucoup plus sensible en fait à certains perturbateurs endocriniens ou pour un bébé que un adulte on va dire qui n'a pas forcément un développement des hormones comme peut l'avoir en fait ce type de profil.
Oui, l'adage c'est la dose fait le poison. Le fait est que quand on ajoute des produits au quotidien et sur une vie ou sur un long terme, quand on parlera des couches pour bébé, c'est là qu'on peut s'exposer ou se surexposer. Dans les composants, et on va y venir aussi, il y a des éléments plus ou moins désirables. On parlera des allergènes aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pour vous fait la toxicité d'un produit? C'est la dose ou c'est un certain nombre de composants qu'il faut exclure aujourd'hui de la fabrication?
Alors, c'est un petit peu les deux, j'ai envie de vous répondre. En fait, nous basons uniquement sur les tests scientifiques. C'est-à-dire que on observe en fait les textes qui sont édités par les institutions scientifiques reconnues. Mmh. Et c'est à partir de ça qu'on se prononce. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des combats que nous avons menés, par exemple avec le dioxyde de titane, qui est un colorant cancérigène, dangereux.
Qu'on trouve où, par exemple ?
Qu'on trouve, en fait, par exemple, dans tous les produits qu'on pourrait ingérer, c'est-à-dire les rouges à lèvres, les dentifrices. Il est dans plus de 7000 références, donc c'est important. Et c'est vrai que l'UFC Que Choisir s'est battu pour qu'il soit supprimé. C'est récent, en fait, il a été supprimé dans l'alimentation. C'est un colorant qu'on trouve aussi dans l'alimentation, mais il ne l'est pas encore dans les cosmétiques. Donc, on continue de se battre pour ça. Et c'est vrai que ça peut être, à terme, dangereux.
Anne Dux est avec nous, directrice des affaires scientifiques et réglementaires d'un syndicat, syndicat professionnel du secteur cosmétique, la FEBEA. Bonjour Anne Dux.
Bonjour Wendy.
Et merci de nous rejoindre pour éclairer aussi nos consommateurs que vous savez en recherche de transparence. Et on a la volonté maintenant de s'arrêter un peu plus sur les étiquettes des produits cosmétiques que nous achetons. Je vais reprendre un exemple, celui du rouge à lèvres, Anne. On sait qu'un certain nombre d'ingrédients qui ne sont pas autorisés aujourd'hui en alimentaire peuvent se retrouver dans des rouges à lèvres. Elle évoquait le dioxyde de titane, mais aussi l'huile minérale, l'hydrocarbure de synthèse. Comment on fait le tri et comment on rend ces produits plus propres face à cette demande justement de transparence?
Alors d'abord, je ne peux pas vous laisser dire que des ingrédients qui ne sont pas autorisés en alimentaire sont présents dans des cosmétiques dont on sait qu'ils sont pour partie ingérés. L'évaluation de la sécurité de ces produits prend en compte l'ingestion et bien sûr ne prend en compte, n'utilise que des ingrédients autorisés en alimentaire. Je crois qu'on a entendu beaucoup de choses un peu excessives à l'instant. D'abord, je tiens à rappeler que tous les produits cosmétiques présents sur le marché sont sûrs, qu'ils sont conformes à une réglementation européenne qui est la réglementation la plus sûre au monde, et que, comme vous l'avez dit très justement, la dose fait le poison et tout ce que met en avant que choisir méconnaît complètement la concentration à laquelle les ingrédients sont utilisés. Donc je tiens à rassurer vos auditeurs, ils peuvent continuer à utiliser les produits cosmétiques qu'ils achètent en Europe, il n'y a pas d'enjeu pour leur santé. Quand on entend dire que les ingrédients sont cancérigènes, je pense que c'est un mépris absolu de ce qui se passe au niveau réglementaire en Europe.
C'est pour ça que vous êtes là aussi, pour nous dire les choses. Simplement, c'est vrai que la dose fait le poison. Je pense au rouge à lèvres qu'on peut se mettre plusieurs fois par jour et pendant 50, 60, 70 ans de notre vie. Je prends un exemple dans ce guide pratique UFC Co Choisir. On n'est pas dans le cosmétique à proprement parler, là, pour cet exemple. On est dans le dentifrice Colgate au fluor, présence de dioxyde de titane. En l'occurrence, c'est un ingrédient qui n'est pas autorisé en alimentaire, qui se retrouve dans ce dentifrice.
C'est un ingrédient qui, pour l'instant, est autorisé en alimentaire partout en Europe et que la France a décidé de suspendre pour un an.
D'accord.
Sur une base qui est un tout petit peu discutable. Et il n'est pas du tout exclu que la Commission européenne demande à la France de retirer cet arrêté.
Est-ce que
le dioxyde de titane fait partie, je suis désolée, mais le dioxyde de titane fait partie des ingrédients qui sont les mieux connus. Si effectivement il est cancérigène chez le rat par inhalation, pas du tout par ingestion. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas l'utiliser dans des produits cosmétiques qui exposent à l'inhalation. En revanche, dans les dentifrices, c'est un ingrédient extrêmement utile parce qu'il est inerte, il est extrêmement bien toléré, il ne provoque pas de réaction allergique, il garantit la stabilité du dentifrice, le fait que le dentifrice du début à la fin du tube va rester blanc. Et par ailleurs, il y a une préférence des consommateurs pour le blanc qui les incite à se laver les dents. Je vous rappelle quand même qu'il y a un tiers des Français qui ne se lavent jamais les dents. Il y a un vrai sujet de santé publique, là.
Il faut raison garder.
Oui.
Et pas imaginer que l'industrie cosmétique utilise des ingrédients cancérigènes dans ces produits.
C'est parce qu'on a dit, on a parlé de perturbateurs et puis d'allergènes, donc on n'a pas parlé de cancérigènes. Derrière, Pascal Barlet, allez-y.
Je suis d'accord avec vous, madame, sur le fait que l'Union européenne est effectivement très protectrice par rapport à d'autres zones dans le monde. Maintenant, nous, ce que nous disons, c'est que ça n'est pas toujours suffisamment. Ce que l'on voit, c'est la protection du consommateur avant tout. Et on sait aussi que les industriels ont parfois intérêt à utiliser certains produits au détriment du consommateur. Le dioxyde de titane a été effectivement, sur une recommandation de l'ANSES et donc par voie du gouvernement, supprimé pendant un an dans l'alimentation. Et ce que nous demandons, c'est que ça le soit également dans les produits cosmétiques, puisqu'il y a une bonne raison à ce qu'il ait été supprimé dans l'alimentation.
Et même si cette suspension peut être levée aussi, voilà, à la fois dans les cosmétiques, si ça a lieu, et dans l'alimentaire. On fait une petite pause avant de reparler aussi de la difficulté à s'y retrouver dans la lecture des étiquettes. Vous êtes peut-être en recherche de transparence, mais comment on fait pour en savoir plus et pour acheter en connaissance de cause? Pascal Barlet, rédactrice en chef de ce guide cosmétique pour le magazine Que Choisir. Anne Dux, directrice des affaires scientifiques et réglementaires de la FEBEA, sont avec nous. Et on est ensemble, nous, jusqu'à 11h sur Europe 1, Julie.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. Vous pouvez vous démarquer en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise. Comment bien choisir ses cosmétiques pour préserver à la fois la santé et l'environnement? Wendy Bouchard.
Alors que les consommateurs sont en recherche de transparence, de produits plus vertueux, alors on parlera du bio et du marketing éventuel autour du bio. Tout ce qui est bio n'est pas forcément exemplaire et exempt de produits. Il faut tout de suite dire les choses avant d'y aller dans le détail. Pascal Barlet, vous qui avez travaillé à la confection de ce guide cosmétique pour UFC Que Choisir. Le bio peut être aussi un miroir aux alouettes en matière
oui,
de produits.
Particulièrement, on voit en fait n'importe qui fait ses courses régulièrement voit que les rayons bio deviennent de plus en plus importants. Mm. Alors c'est vrai qu'on peut penser que ces produits sont plus favorables à notre santé que d'autres. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 5 labels en fait, qui sont des labels privés, donc qui n'ont pas forcément d'objectivité.
Oui.
C'est pas forcément des références quant à la composition des produits. Après, c'est vrai que les marques jouent énormément sur le packaging avec des herbes vertes, des packagings blancs, ce qu'on appelle le greenwashing en fait, et qui a un impact effectivement sur l'achat. C'est là où les industriels sont pas toujours hyper transparents. Hein. C'est que en fait, le consommateur se fait avoir par ce type de packaging et le produit est pas forcément mieux qu'un autre produit.
Oui, là, ça c'est du côté marketing, Andux, mais côté fabrication, on se demande aujourd'hui, dans ce besoin de transparence, comment les fabricants, les grandes marques que vous conseillez pour le cosmétique, les produits d'hygiène, peuvent participer justement à cette ère nouvelle et travailler main dans la main à l'amélioration des produits. Et j'allais dire sans débat, mais dans un objectif d'assainir ces produits. Vous y êtes aussi, alors, vous y travaillez.
Oui, alors d'abord, je ne représente pas que les grandes marques. Hein, je vous rappelle que l'industrie cosmétique française est constituée principalement de PME.
De PME, oui.
Je représente plus de 80% de PME.
Oui.
Il faut savoir que effectivement, toute l'industrie se penche sur la question du bio et surtout du naturel, d'ailleurs, plus du naturel que du bio. Je ne suis pas dans le studio et je suis actuellement à Bruxelles parce que nous avons publié il y a maintenant 2 ans une norme internationale sur les ingrédients cosmétiques naturels et biologiques et qu'il y a des discussions en cours pour favoriser l'application de cette norme et pour améliorer la protection du consommateur et son information en certifiant les ingrédients. C'est ça ce vers quoi on s'oriente.
D'accord, oui.
Actuellement, on trouve effectivement beaucoup de produits bio sur le marché. On trouve également beaucoup de produits naturels. Il faut savoir que la France est le seul pays au monde qui réglemente l'appellation produits cosmétiques naturels et produits cosmétiques biologiques. Il est clair que tous les industriels veulent faire des produits naturels et des produits biologiques. Il faut aussi savoir que c'est compliqué, que c'est pas du tout facile à faire, qu'avoir des ingrédients
naturels,
une formule efficace, c'est compliqué, et que avoir des ingrédients biologiques et une formule efficace, c'est également compliqué.
Alors,
je pense que l'industrie progresse et qu'elle s'améliore et que l'offre devient de plus en plus importante.
Il y a des labels.
Par ailleurs, les produits cosmétiques sont sûrs qu'ils soient bio, naturels ou conventionnels. Ça n'a aucune influence sur la sécurité du produit.
D'accord. Mais alors moi, je vais vous donner une mention qu'on trouve souvent maintenant sur un certain nombre de produits et qui appâte plutôt le consommateur. C'est la mention sans parabènes. Pascal Barlet, les parabènes sont une gamme de produits conservateurs qui stabilisent le produit et qui font partie des substances que notre organisme contient sans que nous ayons forcément conscience d'en avoir absorbé. Et ces parabènes sont par ailleurs des perturbateurs endocriniens. Sans parabènes, la mention, ça veut dire que vraiment, dans ces produits, il n'y en a pas. Andux.
Ça veut dire vraiment. Premièrement, ça veut dire vraiment qu'il n'y en a pas, mais les parabènes ne sont pas des perturbateurs endocriniens. Encore une fois, je suis surprise de la façon dont les associations de consommateurs assènent des contre-vérités scientifiques. Les parabènes sont une grande famille de conservateurs. Ceux qu'on utilise sont des conservateurs naturels, ceux qu'on utilise ne sont pas naturels, mais sont des conservateurs que l'on rencontre dans la nature et qui sont premièrement sûrs et deuxièmement qui ne sont pas perturbateurs endocriniens. Il y a une définition communautaire de ce que c'est que des perturbateurs endocriniens. C'est extrêmement compliqué et on crée une confusion dans l'esprit du consommateur en disant que un produit cosmétique sur trois contient des perturbateurs endocriniens. Mais
alors pourquoi cette mention sans parabènes et pourquoi les fabricants y tiennent autant?
Alors, pourquoi cette mention sans parabènes? C'est pour des raisons historiques. Il y a eu effectivement, dans les années vers à peu près 2004-2005, il y a eu une étude japonaise chez le rat qui laissait penser que le propylparabène, pourrait être un perturbateur endocrinien. Mmh. Du coup, les associations de consommateurs se sont saisies de la question. Ont déclaré qu'il fallait bannir les parabènes et les industriels qui répondent forcément aux attentes des consommateurs ont choisi d'enlever les parabènes qui sont des conservateurs et de mettre un autre conservateur à la place.
Oui.
Il ne faut pas croire que ces choix soient des choix neutres. Parce que le fait d'avoir mis un autre conservateur à la place des parabènes, les industriels ont choisi les conservateurs en fonction de la formule du produit, du pH. C'est assez compliqué de choisir un conservateur. Mmh. Ils ont tous choisi massivement le même conservateur. Alors, quand je dis tous, il ne faut pas exagérer, mais ils ont majoritairement choisi le même conservateur qui s'appelle la méthylisothiazolinone. Et cette méthylisothiazolinone s'est avérée utilisée de manière massive comme étant allergisante. Et donc, on a eu un problème de santé publique avec l'apparition d'allergies très importantes à la méthylisothiazolinone. En réalité, on a banni des conservateurs sûrs pour les remplacer par des conservateurs qu'on croyait sûrs, mais qui se sont avérés moins sûrs que les précédents, et on a eu un problème.
Ouais,
faire attention.
C'est intéressant, Pascal Barlet, ces précisions d'Andux, parce que évidemment, voilà, il y a la demande de l'opinion publique, et puis il y a aussi le principe chimique de la fabrication de ces cosmétiques, voilà, derrière.
Oui, mais nous, ce que nous constatons, en fait, c'est effectivement que les perturbateurs endocriniens, les parabènes, sont des perturbateurs endocriniens en puissance. Il y a une grande famille de parabènes et de types de parabènes. Madame Dux citait le propylparabène, il y a le butylparabène, il y en a un certain nombre. Nous considérons qu'ils sont très allergisants et dangereux. Donc, effectivement, comme le disait cette dame, en fait, ils ont été remplacés en partie par l'amite, mm-hmm. effectivement, qui a été interdite dans les produits non rincés, ce qu'on appelle les produits non rincés, c'est-à-dire les crèmes, par exemple, et les produits rincés étant les produits que vous ne conservez pas sur vous, comme le shampoing ou le savon. C'est effectivement un autre produit qui pose également problème, mais nous, notre rôle, c'est tout simplement que le consommateur soit protégé. Donc, tant qu'il y a des problèmes, nous défendons le fait que ces produits ne soient plus utilisés ou soient remplacés. Et les industriels, il faut le reconnaître, font des efforts. Ils font des efforts parce que nous nous battons aussi pour qu'ils en fassent.
Alors attention, hydratation, produit à éviter, dites-vous, le mix intensif, l'huile ultra doux, l'huile merveilleuse de Garnier, L'Oréal Paris, la fameuse Elnett, la LAC, voilà, parce que trop d'exposition produit aussi des effets allergisants. La crème nourrissante pieds et ongles qui adoucit et hydrate peut-être, mais vous dites qu'elle est à éviter chez Scholl. J'ai ce catalogue sous les yeux de Que choisir, le guide cosmétique, on fait le tour de la question, n'hésitez pas à nous appeler chers amis, vous avez probablement aussi des questions sur l'usage de vos propres cosmétiques. Henriette a une question à vous poser. Anne Dux, Pascal Barlet et nos invités qui nous rejoignent dans un instant, Julie.
Notre consultation Facebook du jour. Faites-vous attention aux produits cosmétiques que vous utilisez au quotidien. Oui, à 66%.
C'est pas mal.
Mmh. Ça commence bien. Alors, Monte Cristo nous écrit « Je n'en mets pas ». Depuis plus de 20 ans, c'est... Attendez, non.
Je commence plus de 10 ans.
Voilà. Il ne met pas de produit, donc. Hein. Depuis plus de 10 ans, c'est savon au lait d'ânesse. Pour la douche, le rasage, le shampoing, je n'ai plus de problème de peau. En plus, c'est économique et écologique. J'ai aussi un déodorant minéral et une crème hydratante, soit au total 3 produits d'hygiène corporelle.
Ah, c'est bien, mal, c'est une petite moyenne. Hein. Il ne pulvérise pas.
Excellent élève. Hein,
excellent élève. Alors, il faut savoir ce qu'on posait des questions avec Julie. On a toutes tous une crème ou un produit attitré. Mm-hmm. Vous en avez, Julie. En fait, il ne faut pas s'amouracher ou s'attacher à une marque pour vous. Quand
pour
vous,
tous les produits, pour le démaquillant.
Quand vous faites le référencement et
la crème. En effet, c'est pas une marque peut être vertueuse sur un produit et pas forcément recommandable sur un autre. Donc, c'est bon, en fait, de ne pas s'attacher à une seule marque. Mmh. Ce qui est important, c'est vraiment de lire les étiquettes. Alors, vous allez me dire, quand on regarde les étiquettes, c'est du latin, voire de l'anglais, oui. extrêmement compliqué.
Bah, du latin, c'est rassurant, justement.
Alors, du latin, c'est normalement un peu plus naturel. Rassurant, parce qu'en fait, effectivement, les produits sont végétaux. L'anglais, c'est pour tout ce qui est chimique, donc c'est moins rassurant. Mmh. Quant à la composition, en fait, l'étiquette, elle indique de façon décroissante le volume des composants. C'est-à-dire que si vous commencez par des produits en anglais, ce n'est pas bon signe.
Parce que c'est ce qui est le plus présent dans ce produit.
Donc, c'est chimique. C'est un repère. Après, ce qui commence par P ou B, c'est un moyen mnémotechnique. C'est souvent des perturbateurs endocriniens.
Ah
donc,
bon
c'est facile aussi de s'en souvenir. Voilà, il y a des petits repères comme ça. Plus que les allégations marketing dont on parlait tout à l'heure hein, sur le bio ou autre chose. Quoi.
Oui, dans ce guide, vous parlez des soins tout public, les déodorants pour hommes. Alors, il y en a qui sont plutôt bien notés. Brut, Narta, William Expert, Aquarelle pour les femmes, Rexona aussi. C'est-à-dire que Anne Dux, pour répondre à Monte Cristo qui dit qu'il n'utilise qu'un déodorant minéral, il n'y a pas que le sel d'aluminium ou la pierre d'Alain qui vaut ce qu'elle vaut. Il y a aussi ces déodorants qu'on ne jette pas tous à la poubelle.
Je suis prête à parier. Alors d'abord, c'est pas un déodorant, c'est un antitranspirant.
Oui.
Mais je suis prête à parier que son déodorant minéral, c'est de la pierre d'Alain.
Oui.
Voilà, ce qui ne pose aucun problème parce que l'aluminium est un ingrédient qui est parfaitement sûr et qui en plus reste à la surface de la peau. Alors je voudrais quand même attirer un tout petit peu l'attention des consommateurs qui nous écoutent sur ce que je viens d'entendre sur la composition des produits. C'est pas parce qu'un nom est en anglais que c'est un nom chimique. Les noms des plantes sont traduits en anglais. Pour la simple raison qu'aux États-Unis, on utilise une liste d'ingrédients qui est plutôt écrite en anglais. Donc c'est pas parce qu'il y a de l'anglais que c'est chimique, ça c'est le premier point. C'est pas parce que ça commence par telle ou telle lettre que c'est un perturbateur endocrinien, parce que je tiens à rappeler.
Bon, on va faire les courses avec vous deux, parce qu'on va la s'y retrouver.
Laissez-moi finir. Je tiens à rappeler quand même que l'Agence européenne des produits chimiques a identifié 14 perturbateurs endocriniens en tout et pour tout, et qu'aucun n'est contenu dans les produits cosmétiques. Mais nous avons bien conscience du fait que le consommateur veut légitimement savoir ce qu'il y a dans son produit et que cette liste d'ingrédients est rédigée dans un langage qui n'est pas destiné au consommateur. Oui. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a une liste d'ingrédients sur les produits cosmétiques? C'est pour les gens allergiques, pour qu'ils puissent vérifier que le produit ne contient pas la substance à laquelle ils sont allergiques, dont ils connaissent le nom, pour éviter qu'ils achètent des produits qu'ils ne pourraient pas utiliser. C'est ça l'origine de cette liste d'ingrédients et ça n'a jamais été dans un but d'information du consommateur.
D'accord,
mais pourquoi
vous
il est nécessaire d'informer le consommateur?
C'est une obligation quand même d'indiquer la composition des produits.
Oui, non, mais c'est une obligation, mais c'est une mauvaise façon d'informer le consommateur.
Ça, c'est vrai.
C'est la raison pour laquelle
c'est du charabia pour eux, mais il faut bien des moyens mnémotechniques pour qu'ils se repèrent.
Alors, c'est la raison pour laquelle, à partir du 1er juillet, nous allons ouvrir l'information complète sur tous les ingrédients utilisables en cosmétique par le biais d'une base de données qui sera sur notre site internet, qui sera donc accessible à tout le monde et qui permettra aux gens de comprendre ce qu'est l'ingrédient, quelle est son origine, est-ce que c'est un ingrédient qui est d'origine animale, d'origine végétale ou de synthèse, et quelle est sa fonction, à quoi il sert dans le produit.
Alors en attendant, et c'est déjà en kiosque, les consommateurs peuvent acheter notre pratique.
Vous allez probablement vous retrouver d'ailleurs, peut-être à la fois sur les produits de la FBA référencés et sur les vôtres.
Parce que tout ce que nous rappelons, en fait, c'est simplement ce que les scientifiques évoquent.
Oui, donc vous pouvez vous retrouver.
Simplement, nous prenons des précautions, encore une fois, pour les consommateurs, parce que notre seul objectif, c'est leur santé.
Merci beaucoup, Anne Dux, d'avoir participé avec quelques précisions très importantes sur le sujet en qualité de directrice des affaires scientifiques et réglementaires de la FBA, syndicat professionnel du secteur cosmétique, avec cette transparence aussi à l'avenant. Dans un instant, on poursuit avec une question d'Henriette, avec une dermatologue qui va venir aussi nous parler de ses effets éventuellement allergènes d'un certain nombre de cosmétiques et comment s'en prémunir. A tout de suite, Julie. Faites-vous attention aux produits cosmétiques que vous utilisez au quotidien. Je continue avec des petits témoignages sur Facebook.
Oh, je vous en prie, avec plaisir.
Allez, je ne mange pas bio, mais par contre, je fais attention aux produits, surtout pour mes enfants. Je fabrique mon gel douche, mon liquide vaisselle et ma lessive, nous écrit Jenny.
Oui, intéressant.
Comment on fait pour fabriquer
son gel douche ? On va en parler, c'est bio fait maison.
D'accord. Produits fait maison.
Cathy, je ne maquille pas et c'est déjà un point en moins. Pour le reste, j'essaie d'acheter le produit le moins trafiqué, mais comment en être sûr? Tout est empoisonné maintenant, même le bio.
Alors justement, on essaye de rationaliser, un peu de dépassionner tout ça avec ce guide cosmétique que publie l'association UFC Que Choisir. Sain ou toxique, faites le tri. Vous référencez 171 produits, des soins tout public, aux soins pour enfants, les ados, les femmes enceintes, des crèmes hydratantes au shampoing, des déodorants à l'hygiène intime, tout est passé au crible avec des notes, hein, des critères de produits sans risque, au risque significatif. On a deux questions qui vont dans le même sens pour vous, à la fois d'Henriette et de Régine. Depuis des années, se demande Henriette, je m'interroge avec des amis, quand y aura-t-il des dates d'expiration sur les produits cosmétiques? Est-ce
question.
Normal, voilà, dit Régine, ne faudrait-il pas en mettre une? C'est exact, hein. Pourquoi? Pourquoi on n'en a pas?
Oui, alors comme pour dans pour l'alimentaire, en fait, les dates sont simplement des repères, mais pardon, peuvent être dépassées. C'est pas pour autant que le produit sera nocif. Donc, effectivement, ça, c'est pas quelque chose sur quoi je peux vous répondre parce qu'on n'a pas de position pour l'instant à l'UFC Que Choisir.
C'est-à-dire, si on ouvre une crème et qu'on l'utilise pendant un an, il n'y a pas de problème?
Alors, oui, mais on ne sait pas quand on l'a ouverte, le tube de crème, on ne sait pas quand on l'a ouverte.
Une crème solaire d'un été sur l'autre.
Ça a duré 12 mois, mais bon, on ne sait plus quand on l'a acheté, on ne sait plus quand on l'a ouverte.
Notamment par rapport aux produits, aux composants qui sont intégrés pour conserver et qui sont parfois dangereux, effectivement, donc ça aurait un sens d'avoir ce type de date. Vous faisiez allusion aux produits faits maison. Typiquement, en fait, on ne met pas de conservateur, voilà, mais il faut pouvoir utiliser votre crème très rapidement. Donc, ça a aussi des contraintes.
Mais pourquoi pas de date limite du côté des fabricants? Pourquoi il n'y en a pas?
Je ne peux pas vous répondre là-dessus. J'ai pas de...
On peut rappeler Anne Dux, ma petite Naïma, que j'ai remerciée. Excuse-moi, juste on va reposer la question. Voilà. En attendant, je salue Isabelle Rousseau, qui est dermatologue à Lille et membre du syndicat des dermatos. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour Andy.
Et merci de venir participer vous aussi à cette réflexion sur la vertu ou la toxicité d'un certain nombre de produits. Recevez-vous beaucoup de patients qui se plaignent justement d'allergies ou de désagréments dus aux cosmétiques qu'ils utilisent?
Oui, ça arrive quand même assez souvent. Surtout pour autour des yeux.
Oui, c'est-à-dire essentiellement lié aux crèmes?
Oui, parce que si vous voulez, en fait, la peau de la paupière est une peau assez fragile et fine. Donc, elle va être plus sensibilisée avec les produits.
Oui. Il y a une réflexion à l'approche de l'été sur le choix de sa crème solaire. Et un certain nombre de spécialistes qui demandent que la crème solaire, finalement, figure au rang des médicaments parce qu'il faudrait quasiment une crème appropriée pour chaque épiderme. Vous êtes bien placé pour le savoir. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est vrai. Alors, si vous voulez, on parlait de la date de péremption tout à l'heure. Alors, les crèmes solaires, vous savez qu'il y en a qui sont dans des tubes en plastique, qui contiennent des phtalates, qui ne sont pas très bons, et qui libèrent des perturbateurs endocriniens, surtout à la chaleur. Donc, il est bien évident, quand vous avez un tube de crème qui a été ouvert, qui est resté au chaud sur la plage, il faut le jeter, il ne faut pas sortir bien l'année d'après.
D'accord, très bon point déjà. De toute façon, voilà. D'une année sur l'autre, même si on la conserve correctement, la crème solaire, il faut mieux ne pas l'utiliser?
Oui, il vaut mieux. Ça, c'est vrai que je pense qu'à partir du moment où on a ouvert un tube, il faut s'en servir. Et puis après, il faut, si c'est un an, il faut le jeter. Et puis c'est tout, il faut changer. Hein.
D'accord. Ensuite, c'est au dermato de recommander la crème solaire ou on peut faire confiance à son pharmacien sur le sujet?
Bah, écoutez, en principe, les pharmaciens sont bien placés pour donner des conseils. Hein, et on a aussi justement des sites. Alors, merci à Que Choisir de ce travail, parce que c'est très, très important pour la santé des gens. Hein. Mais ceci étant, je pense que quand on a vraiment des problèmes de peau, on peut demander conseil à son dermatologue.
Tout à l'heure, Pascal Barlet nous disait, attention, ne peut-être pas se fier à un produit, une crème toute sa vie. Il faut alterner les crèmes. Qu'en pensez-vous? Parce que le dermatologue peut aussi prescrire des crèmes un peu plus médicales. Vous recommandez justement de changer?
Oui. Non, ça ne sert absolument à rien. Non, si vous voulez, les crèmes solaires, je pense que si en fait, il y a aussi un problème de cosmétique. Alors surtout, bien évidemment, il faut prendre du 50.
Ah oui.
Il faut utiliser un indice
le plus
fort,
protecteur, d'accord.
Le plus protecteur.
Mais là,
je
parlais des crèmes en général. Hein,
excusez-moi, oui. Je ne parlais pas d'alterner les crèmes, je disais d'alterner les marques.
Les marques, oui.
Ne pas se fier à une seule marque qui, sous prétexte que c'est une marque qui nous rassure, est toujours bonne. Après, effectivement.
Voilà, Nivea, Caudalie, Nuxe, voilà. Que vous voulez, Biotherm. Et c'est important d'alterner justement les marques pour vous?
Non, moi je pense que non. Si vous voulez, à partir du moment où on aime bien une marque, où elle nous convient bien et où on la trouve bien pour sa peau.
Ou la peau la tolère, oui.
Je pense qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison de changer. Bon, le problème, c'est que les femmes en particulier aiment bien changer. On aime bien le changement, hein. Il y a la mode. Et si vous voulez, dans les crèmes, il y a aussi de la mode. Alors, les fabricants vous rajoutent une petite chose et automatiquement, on va avoir une nouvelle crème alors que c'est exactement la même que celle d'avant. Hein.
Est-ce que vous êtes très, très bio au syndicat des dermatologues? Vous recommandez évidemment les produits les plus sains possibles.
Moi, personnellement, ça fait 20 ans que je mange bio et voilà. Et au niveau des crèmes, je fais très attention. Ceci étant, je vais vous dire simplement, c'est que c'est pas parce qu'une crème est étiquetée bio qu'elle est forcément bonne pour votre peau.
Eh bien, oui, absolument. On va y venir juste après la pause, Isabelle Rousseau. Merci beaucoup. Dermatologue à Lille, membre du syndicat des dermatologues. Plein de questions à vous poser, Pascal Barlet, après la pause. Vous qui publiez ce guide cosmétique sain ou toxique, faites le tri justement où se procurer les meilleurs produits, à qui faire confiance, parce qu'on peut aller aussi en grande surface acheter ces produits-là. Vous allez nous guider un petit peu encore sur le sujet. À tout de suite sur Europe.
Près d'un produit cosmétique sur trois contient des perturbateurs endocriniens, des substances toxiques, irritantes ou fortement allergisantes. L'UFC Que Choisir vient de publier un guide pour aider les consommateurs à faire le bon choix. En studio avec nous, Pascal Barlet, qui est la rédactrice en chef de ce guide cosmétique Que Choisir, qui décrypte et fait le tri parmi 171 références.
Et quand vous parlez de risque moyen, limité, sans risque significatif, bien vous regardez la posologie, la composition aussi de ces produits, la présence de perturbateurs. Je tombe sur la page crème hydratante peau grasse, crème légère, matifiante, purifiante d'eau précieuse. Produit à éviter, hein, présence d'allergènes, présence de propylparabènes, perturbateurs endocriniens avérés. C'est en fonction, vous classez ces produits.
Bien sûr, en fait, effectivement, comme je vous le disais au début de cette émission, en fait, nous référons en fait à tous les textes scientifiques édités, et nous avons par rapport à cela une position qui est toujours celle de la protection du consommateur. Donc, on a fait un classement au début du guide pour que le consommateur voit quels sont les perturbateurs endocriniens de façon très évidente, quelles sont les substances indésirables, les allergènes ou les produits irritants, ceux qui sont susceptibles d'être cancérigènes ou non, etc. On a créé le plus de repères possible, on a créé ce guide de façon à ce qu'il soit le plus pédagogique possible.
Ça veut dire quoi, c'est susceptible d'être cancérigène? Il y a vraiment des produits cosmétiques qu'on utiliserait et qui pourraient développer un dérèglement hormonal et un cancer à la clé? Vraiment?
Oui, c'est le cas du dioxyde de titane dont on parlait tout à l'heure.
Le fameux, oui.
Qui a été donc suspendu dans l'alimentaire, mais qui est toujours présent dans les cosmétiques.
D'accord.
C'est un produit qui est susceptible d'être cancérigène. Et donc, pour nous, la position, c'est ne l'utilisez pas.
Voilà, le suspendre ou de l'interdire. Annie sur Facebook nous écrit quel crédit apporter aux différentes mentions testées sous contrôle dermatologique ou hypoallergénique? Parce que ça, c'est vrai qu'on trouve souvent ces mentions associées sur les produits. On leur fait confiance?
C'est toujours en fait des mentions qui sont utilisées par les industriels pour rassurer. C'est comme le sans parabènes, voilà. Alors c'est vrai qu'en tant que consommateur, on est sensible à ce genre de choses. Maintenant, il y a une obligation de moyens, mais pas de résultats. C'est-à-dire que on peut pas dire que scientifiquement ce soit valable. Donc en fait, non, on fait pas confiance.
Mais hypoallergénique, ça veut dire que ça a été testé et que c'est normalement anti-allergène.
Ça a été testé, mais il n'y a pas de mention scientifique qui atteste de cela.
D'accord, bon, ça nous guide, ça nous rassure bizarrement cette histoire. Les crèmes solaires, on peut en reparler un petit mot parce que pendant la pause, vous nous disiez qu'il y a une fabrication différente pour les crèmes solaires à destination des petits et à destination des adultes. C'est-à-dire que les fabricants font quand même un peu d'efforts pour les plus jeunes?
Oui, alors là encore, c'est effectivement l'un des combats que l'UFC Que Choisir a mené. Et effectivement, il faut le reconnaître, les industriels font des efforts une fois qu'on les pousse un petit peu à les faire. Donc les crèmes en fait solaires pour enfants comportent, on le constate dans nos tests, beaucoup moins d'allergènes que les crèmes adultes. Résultat, avant l'été, acheter pour toute la famille une crème pour enfants, indice 30 minimum,
oui, et on l'utilise
tous. Vous en porterez beaucoup mieux.
Voilà, bonjour Anne Dux.
Ouais, bonjour.
Je suis désolée parce que j'ai oublié de vous poser une question, donc je vous sollicite encore, pardon, vous qui êtes à Bruxelles pour bosser. C'est une question d'Henriette. Depuis des années, elle se demande quand il y aura des dates d'expiration sur les produits cosmétiques. Pourquoi les fabricants ne jouent pas le jeu des fabricants de produits alimentaires? C'est une question qui est revenue souvent. On voudrait juste comprendre pourquoi c'est possible et pourquoi ça ne l'est pas.
Alors, la première raison, c'est que les produits cosmétiques se périment beaucoup moins vite que les produits alimentaires. Mmh. En fait, il y a des dates sur certains produits, en particulier les produits que vous achetez en pharmacie.
Oui.
Il y a très souvent des dates, c'est un choix des industriels. La réglementation explique que dès lors que le produit se garde plus de 3 ans, en fonction de tests qui sont faits sur le produit, la date qui compte, c'est la date de conservation après ouverture. Donc en fait, ce qui compte, c'est pendant le temps pendant lequel vous avez utilisé votre produit, à partir du moment où vous l'avez ouvert. Et c'est donc la date qui figure sur les produits, le plus souvent sous forme d'un petit pot ouvert avec à l'intérieur le nombre de mois pendant lequel vous pouvez utiliser le produit.
Oui, mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand on l'a ouvert, ce produit. Vous avez un tube qui est resté sur votre table de toilette et vous ne savez plus quand vous l'avez ouvert.
C'est assez exact. On ne sait jamais quand est-ce qu'on a ouvert le produit. Alors, les gens les plus soigneux écrivent la date d'ouverture dessus.
C'est manifestement pas le cas de Julie.
Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, les produits solaires ne se réutilisent pas d'une année sur l'autre.
Ah, voilà, ça c'est important.
Donc ça c'est extrêmement clair. Il y a la date de conservation, c'est 12 mois à partir du moment où vous les avez ouverts. Il y a des produits que vous pouvez conserver indéfiniment. C'est le cas en particulier des parfums. Et donc, il n'y a pas de petit pot ouvert dessus. Ça veut dire que vous pouvez les utiliser indéfiniment. Et la plupart des produits, beaucoup des produits de soins, des crèmes, etc., que vous utilisez, vous pouvez les garder entre 1 à 3 ans après ouverture, ce qui fait quand même très longtemps. Et en général, vous l'avez utilisé avant la durée.
Bien sûr. Et je vous remercie beaucoup.
Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de date de péremption.
Merci beaucoup, Anne. Bonne journée. Merci. Et Pascal Barlet, avant une petite pause, juste un mot. Est-ce qu'il faut faire confiance à son pharmacien pour choisir ses produits davantage qu'à notre propre conscience quand on va, par exemple, en supermarché pour acheter ses produits cosmétiques?
C'est effectivement un chapitre que l'on développe dans le guide. On a constaté qu'il n'y avait pas forcément de produits, encore une fois, on évoque simplement la santé, meilleurs en pharmacie qu'en grande surface ou dans des magasins spécialisés. On est tenté parce que c'est vrai que vous avez quelqu'un en blouse blanche qui vient vous conseiller. C'est l'effet blouse blanche, en fait. On est rassuré par la personne qui va vous conseiller, qui, il faut le dire aussi, profite d'un certain chiffre d'affaires avec ce type de produit. Donc, on dit que c'est bien la pharmacie, mais ce n'est pas forcément mieux.
D'accord. Voilà. Et puis, il faut surtout apprendre à lire les étiquettes et à se repérer aussi avec votre guide pratique.
Faire en sorte que les consommateurs soient autonomes.
Voilà. Juste après la pause, faire ses produits à la maison, les cosmétiques naturels, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous ferons avec la cofondatrice de Green Barbès. Elle va nous en parler justement de cette démarche et de cette tendance. Clémentine Buren, juste après la pause.
Comment bien choisir ses cosmétiques ou comment bien les fabriquer soi-même aussi, hein.
Alors attendez, vous avez une question. Comment bien choisir par exemple son dentifrice, c'est ça?
Voilà, le dentifrice.
Oui, alors il n'y a que 171 produits passés au crible dans ce guide. En revanche, si on veut par exemple bien choisir son dentifrice ou son shampoing, on télécharge l'application Quel Cosmétique, COSMETIC, Quel Cosmétique, Pascal Barlet. On scanne le produit, en l'occurrence, qu'on voudrait acheter. Et qu'est-ce qui s'affiche sur notre écran?
Donc, c'est une application gratuite, rappelons-le. Et effectivement, vous aurez à la fois la composition du produit, mais surtout un code couleur qui vous facilitera la tâche, en fait, pour vous dire si vraiment le produit comporte des composants à éviter ou pas.
Oui, d'accord.
Et c'est aussi selon le profil. Si vous êtes, par exemple, justement, un senior, un enfant, une femme enceinte, Tout répondra en fait
c'est
à votre
profil. Et là, il y a 171 000 références.
Vous avez les codes couleurs, par exemple, vert, c'est sans risque, jaune, risque limité, orange, risque moyen, rouge, risque significatif.
Voilà.
Etc.
Risque de trouver des composants inquiétants, perturbateurs endocriniens ou présence d'allergènes. Nettoyer, hydrater, protéger ou s'empoisonner, c'est le titre d'un des chapitres de ce numéro spécial UFC Que Choisir. On parle des cosmétiques. Bonjour Clémentine Buren.
Oui, bonjour Wendy.
Merci de venir nous parler de votre propre cheminement en la matière. Vous qui avez cofondé Green Barbès, c'est une marque de cosmétiques naturels 100% fabriquée en France et dont vous proposez aussi au public la possibilité de fabriquer à la maison des produits de beauté. Vous vendez par exemple des kits prêts à mélanger. Quel est l'intérêt par exemple de cette démarche?
Alors, l'intérêt des kits très mélangés, donc c'est un hybride entre le do-it-yourself et le blend-it-yourself. Donc, le blend-it-yourself, c'est l'action de mixer soi-même. Tous les ingrédients sont pré-dosés.
Oui.
Et l'intérêt d'avoir ça à la maison, c'est d'avoir un œil tout en transparence sur tous les ingrédients. Donc là, on peut voir que pour fabriquer nos crèmes, il faut une phase aqueuse, une phase huileuse et un émulsifiant. Et finalement, la ligne d'ingrédients, on n'a pas besoin d'être très très longue pour fabriquer un soin de qualité et efficace.
Comment vous pouvez dire que c'est un soin de qualité? Parce que vous avez été bien encadré pour le sujet aussi, scientifiquement?
Oui, tout à fait. On a développé ce produit avec notre laboratoire qui se trouve dans la Cosmétique Vallée, entre
D'accord.
Chartres et Orléans.
Oui.
On a été accompagné par un docteur en pharmacie, Béatrice Bell. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Et donc, on a développé ces produits-là avec des prérequis qualité très stricts sur l'origine des ingrédients, sur la culture de ces ingrédients. Est-ce que l'environnement, l'humain et finalement tout le monde, est-ce que l'éthique est respectée?
Oui.
Et donc, on a développé ces produits-là avec en partenariat également avec LVMH Recherche, qui nous a permis de vérifier donc la qualité des ingrédients, l'origine, et faire en sorte que le produit que les personnes fabriquent chez eux est un produit sécurisé, de qualité et efficace.
Tout est parti pour vous d'un besoin de transparence. On en parle depuis tout à l'heure de recherche de transparence du consommateur.
Tout à fait. Oui, c'est ça. On avait un peu marre des compositions un peu opaques, de devoir avoir la bible des ingrédients cosmétiques à côté à chaque fois qu'on devait faire ses courses. Donc,
oui.
On a voulu créer des produits simples avec quelques ingrédients et qui pouvaient également concurrencer des grandes marques de cosmétiques.
C'est-à-dire
sans les produits nocifs.
Oui, on a un peu tout chez vous, à la fois des crèmes, des déodorants, des shampoings, des dentifrices. On peut tout faire avec vous, avec Green Barbès?
Non, alors pas encore. C'est vrai qu'au tout début du lancement de la start-up, on a lancé la start-up avec un kit crème et un kit déodorant.
Mmh.
Il y avait beaucoup de demandes pour le déodorant parce qu'il y a quelques temps. Maintenant, on est sur un produit unique en kit qui est crème visage, crème corps.
Mmh.
Mais on est en train de développer la marque et la gamme autour de soins sur mesure qu'on va pouvoir composer en fonction de sa carnation de peau. Donc, on aimerait pouvoir se déployer sur effectivement le dentifrice et le déodorant et plein d'autres produits. Donc, c'est dans les tuyaux.
En tout cas, j'aime bien votre slogan. Green Barbès, pensez à Paris, certifié en France, formulé chez vous. Voilà, vous avez cette possibilité ou d'acheter les produits ou de les faire à la maison avec les recommandations de Green Barbès. Greenbarbès.org, voilà un exemple de ce cosmétique maison qui nous rapproche du produit de la fabrication. C'est un petit peu aussi l'idée générale de l'éthique, de se rapprocher de l'étiquette et de mieux savoir ce qu'on consomme au quotidien. Pascal Barlet, qui vous a amené à faire ce guide.
Tout à l'heure, vous faisiez allusion à quelqu'un qui a témoigné, je crois, sur Facebook, comme quoi il n'utilisait qu'un savon. En fait, vraiment, la morale de l'histoire, j'ai envie de dire, c'est limiter l'usage des produits, aller vers la simplicité et ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire multiplier les produits, c'est pas très bon.
Merci. Le guide cosmétique en kiosque, que choisir, sain ou toxique, faites le tri. Merci beaucoup, Pascal Barlet.
Merci à vous.